Alors, si vous voulez, on va me suivre, on va aller dans notre... continuer notre étude qu'on a commencée dans Genèse. On est rendu à Genèse 12. Genèse 12, c'est un passage important parce que ça commence à présenter un peu ce que le Seigneur commence un peu une alliance, la doctrine de l'alliance. Éventuellement, c'est dans mes projets, on va faire une étude approfondie de la doctrine de l'alliance. C'est très important. Mais on voit aujourd'hui les balbutiements. Autrement dit, le Seigneur commence un petit peu à faire une alliance avec Abraham. Alors, on est dans Genèse 12, les versets 1 à 9. Genèse 12, versets 1 à 9. « Or, l'Éternel avait dit à Abraham, « Sors de ton pays et d'avec ta parenté et de la maison de ton père et viens au pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation. » Et te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham sortit donc, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot alla avec lui, et Abraham était âgé de 75 ans, quand il sortit de Charan. Abraham prit aussi Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient acquis, et les personnes qu'ils avaient eues à Charan. Et ils partirent pour venir au pays de Canaan, auquel ils entrèrent. Et Abraham passa au travers de ce pays-là, jusqu'au lieu de Sichem, et jusqu'en la plaine de Moré. Et les Cananéens étaient alors dans ce pays-là. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne qui est à l'orient de Bethel, et y tendit ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Puis Abraham partit de là, marchant, et s'avançant vers le midi. Amen. Alors, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta présence, nous sommes tes enfants. Nous avons reçu ta grâce, ta lumière, par ta bonté, qui s'est exercée depuis l'éternité. Et Seigneur, tu nous dis dans ta parole que on peut demander l'Esprit, bien sûr, on ne demande pas l'Esprit dans le sens de la régénération, mais on demande que ton Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous, qu'il manifeste sa présence et que nous sentions, Seigneur, sa puissance et sa force, et que nos cœurs, il n'y a que toi qui es capable de le faire, que nos cœurs soient ouverts, nos esprits, toute notre être soit ouvert à la réception de ta parole et à son application dans notre vie de tous les jours, pour qu'on t'apporte honneur et gloire dans notre comportement. On te demande toutes ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, tout simplement, aujourd'hui, j'ai intitulé la leçon, le sermon, « La rencontre d'Abraham avec Dieu ». A remarqué qu'on ne dit pas « Abraham » encore, parce que Dieu n'a pas encore changé le nom d'Abraham. Il porte encore le nom d'Abraham dans Genèse 12. Alors, on va regarder... que c'est une rencontre qui est révélée, donc Dieu se révèle à lui dans une alliance, et ensuite on va voir que Abraham a bien répondu à l'appel du Seigneur, donc dans l'obéissance, et on va voir aussi qu'il y a eu une très grande récompense qui lui est dite dans les versets, beaucoup plus grande qu'on le lit à première vue, quand on parle, toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. On n'imagine pas tout ce qu'il y a là-dedans. C'est énorme. Alors aujourd'hui, on rentre dans la deuxième partie de la division classique que les gens font quand ils étudient la Genèse. Genèse 1 à 11, on parle surtout de l'histoire des hommes qui s'est étendue sur une période d'approximativement 2000 ans. Mais c'est l'histoire de l'humanité en général. La chute d'Adam et Ève... Mais on n'a pas vraiment beaucoup de développement sur l'histoire des personnes en particulier. Donc, 1 à 11, c'est vraiment l'histoire, qu'on pourrait dire, l'histoire de l'humanité. Et quand on arrive dans 12, aller jusqu'à la fin, jusqu'à 50, là, on rentre dans l'histoire des patriarches. Donc, quand on regarde ça, 11 chapitres pour parler de 2000 ans. Et là, on rentre dans une période du chapitre 12 au chapitre 50. Donc, sur une période d'à peu près 350 ans, le Seigneur prend beaucoup plus de chapitres pour parler de quatre personnes qui sont importantes dans l'histoire du salut. Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Aller jusqu'à la fin, à partir de Genèse 12, c'est les quatre personnages dont on va parler, les patriarches. Donc, l'histoire du monde de 1 à 11, l'histoire patriarcale de 12 à 50. C'est important de saisir le plan du livre, parce que ça nous aide beaucoup à comprendre. Alors, on a parlé de 2000 ans de 1 à 11, et on a parlé de 350 ans de 12 à 50, à peu près. Les premiers versets du chapitre 12 de la Genèse constituent vraiment une introduction à la doctrine de l'Alliance, qui fournit, on peut parler de l'Alliance comme étant un cadre interprétatif de l'ensemble des Écritures. On va l'étudier éventuellement, ça ne devrait pas être bien long, peut-être l'automne, quelque chose comme ça, on devrait être rendu là, de faire une étude approfondie sur ce sujet-là. On va décortiquer tout cela et on va voir comment le Seigneur a déployé et comment le Seigneur a montré son alliance graduellement, mais aussi temporellement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça commence ici. Et on va voir un petit peu plus tard qu'il va en dire un petit peu plus long dans Genèse 17. Il va en dire un petit peu plus long ailleurs. Et après ça, ça va être d'autres personnages. Il va le faire avec d'autres personnages, David, et etc. Alors, on va développer tout cela éventuellement pour bien comprendre un cadre interprétatif. C'est qu'on n'invente pas une façon d'interpréter la Bible. Les alliances sont dans les Écritures et ils se développent et on a intérêt à comprendre cela. Plus on va comprendre ça, plus notre facilité de voir la Bible dans son ensemble va être facilitée. Alors, le personnage d'Abraham, je parlais avec Jacques Pelletier récemment quand je suis allé à Québec et il me disait qu'il avait fait une étude approfondie sur le personnage d'Abraham. Bien sûr, si j'étudie Genèse 12, 1 à 9, j'apprends un petit peu de choses sur la personne d'Abraham. Mais si quelqu'un voudrait faire une étude approfondie, faudrait qu'il regarde toutes les fois que son nom a été mentionné dans les Écritures et l'importance que ce personnage-là a dans le salut. Alors, il y a très certainement une place importante et privilégiée dans toute l'Écriture. Alors, quand on regarde, par exemple, dans Jacques 2, au verset 23, ça dit, « Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? » Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. » Vous voyez donc, l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ça, c'est un livre qui faisait littéralement bondir Luther, qui est un réformateur. Mais il faut toujours se replacer dans le contexte de l'époque. Hein. Il sortait d'une religion d'œuvre et lui avait comme saisi que le principe du salut par la foi. Et Jacques, pour lui, l'épître de Jacques, pour Luther, il avait de la misère à intégrer ça dans son système théologique. Pour la simple et bonne raison que des fois, on est porté à opposer la foi et les œuvres. Et c'est vrai qu'on peut le faire. Mais les Écritures parlent aussi que la foi s'exprime par les œuvres. Alors, quand il dit ici, « Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres? » Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que la foi, ce n'est pas uniquement une adhésion intellectuelle à des vérités. Il faut qu'elle s'exprime dans le quotidien, il faut qu'elle produise des œuvres. Sinon, comme la Bible dit, c'est une foi qui est morte, et une foi morte, ce n'est pas de la foi. Alors, quand on comprend un peu le principe, et ici, il donne l'exemple d'Abraham comme étant un personnage sur lequel on peut s'appuyer pour voir un exemple de ce que c'est la véritable foi. On a aussi dans Matthieu chapitre 3, c'est là où on est en train de voir, d'essayer de regarder comment ce personnage-là est important depuis le début de la Genèse et comment son nom est mentionné à maintes et maintes reprises dans l'Écriture. Je ne vous donnerai pas toutes les références parce qu'il faudra faire une étude beaucoup plus approfondie. Mais dans Matthieu 3:9, on a les Juifs qui considéraient Abraham comme étant leur père. OK, on va aller voir Matthieu 3, versets 8 à 10. Et ici, on a Jean-Baptiste qui disait « Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit point de bons fruits, est coupé et jeté au feu. » Alors, on voit ici encore un autre exemple. Les Juifs, ils s'étaient fait dire qu'ils étaient les enfants d'Abraham et ils menaient des vies qui ne correspondaient pas à une véritable foi. Et Jean-Baptiste les avertit, produisez des fruits dignes de la repentance ou sinon, votre foi, c'est comme il parle d'un arbre qu'on l'a cogné, ça veut dire que c'est déjà placé pour que l'arbre tombe. Alors, c'est très important. Il parle « Ne produit point de bons fruits coupés ou jetés au feu. » Dans Galates 3, là, si on ferait la liste de tous les livres des Écritures où on mentionne le nom d'Abraham, alors quand le Seigneur a dit qu'il ferait de lui, il lui donnerait un nom qui deviendrait comme célèbre. Hey, ça fait longtemps, là. Et on en parle encore aujourd'hui d'Abraham. Dans Galates 3, les versets 7 à 9, là, on vient nous dire que tous les véritables croyants sont des enfants d'Abraham. Verset 7 du Galates 3 dit « Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a évangélisé par avance à Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi. » Voyez-vous, il est en train de faire référence à ce qui a été dit dans ce qu'on étudie aujourd'hui, Genèse 12. Et il est en train de dire que les croyants modernes sont l'expression de la réalisation, de l'accomplissement de ce que Dieu a promis dans l'Ancien Testament, de dire qu'en Abraham, tous les hommes, toutes les nations seraient bénies en lui. Verset 9, ça dit « Pourquoi c'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Puisqu'il est écrit, « Maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. » Juste pour vous donner une idée, les versets qu'on a nommés, on pourrait en allonger beaucoup plus que ça, pour démontrer que le personnage d'Abraham est très important pour le christianisme, parce que dans beaucoup de livres, on parle de lui, et on parle de lui comme l'ami de Dieu, le père des croyants, et toutes ces choses. C'est important de réaliser cela. Alors, dans les versets 1 à 3, on va voir que c'est une rencontre révélée. On a dit que le titre, c'était « Abraham rencontre Dieu ». C'est une rencontre révélée. Révélée, ça veut dire quelque chose qui est perceptible. Dieu se révèle à toi, mais c'est pas juste comme ça, là, c'est il parle. Alors, ça dit dans Genèse 12, verset 1, « Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ton pays et de ta parenté, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Alors, l'appel, Dieu lui fait un appel, et on se souvient que dans le pays où il était, il vivait dans l'idolâtrie jusqu'aux oreilles. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, prend le personnage et lui dit, « Sors de là, sors de ta parenté, et viens, et obéis-moi et va dans le pays que je vais te montrer. » Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Le Seigneur est en train de préparer la naissance de l'État d'Israël, de la nation d'Israël. Alors, l'appel divin à Abraham est très clair et très explicite. Il doit sortir de ce pays idolâtre. Il faut qu'il fasse d'importants sacrifices, bien entendu. Quitter son pays. Quelqu'un qui a déjà sorti un petit peu, là. Quand on quitte notre pays et qu'on s'en va dans un autre pays ailleurs, si on le fait pour un voyage, c'est plaisant. Mais si le Seigneur disait à un d'entre nous, quitte ton pays et, disons, va-t'en aux Indes, tu dirais, oh, là, pas pas prêt à moi, là. Mais c'est ça qui s'est produit, là. Dieu lui parle et lui demande un sacrifice énorme. Quitter ton pays, quitter ta parenté. Car on vit à un endroit, bien souvent, notre parenté est là, au Québec. En général, toute notre parenté vit au Québec. Des fois, un petit peu loin, mais elle vit quand même au Québec, en général. Il y a des exceptions, mais en général. Quitter sa parenté, quitter son foyer. Donc, tu t'abandonnes ton foyer, puis tu prends toutes tes guédis, comme on dit, puis tu t'en vas. Et quelque part, c'est... fallait qu'il y ait une énorme confiance au Seigneur pour obéir à cet ordre-là. Alors ici, on apprend des principes qui se doivent d'être appliqués dans la vie de chaque croyant. Puis quels sont ces principes-là? La grâce doit avoir priorité sur les relations familiales. C'est bien d'avoir des familles, c'est bien d'aimer nos familles, mais quand le Seigneur nous demande quelque chose, l'amour de Dieu doit dépasser l'amour de la famille. Alors, on apprend ce principe-là. On apprend aussi que le péché se doit d'être abandonné. Tu vis dans un pays d'idolâtrie. Tu sors de là. Il faut que tu t'abandonnes ça, là. Et une autre chose, il faut que tu places ta foi entièrement en celui qui te demande quelque chose et de le faire. Un peu comme quand on va arriver un petit peu plus tard, dans 22, il avait donné un fils, puis à un moment donné, il va lui demander à Abraham de l'immoler. Imaginez-vous le conflit dans la tête de la personne. Le Seigneur t'a donné un fils, puis il te demande de l'immoler toi personnellement. Et les Écritures disent qu'il avait tellement confiance à Dieu qu'il était prêt à exécuter, sachant que Dieu avait la capacité de le ressusciter. Alors, quand on nous présente Abraham comme étant le père des croyants, on ne se trompe pas, là. C'est un homme qui a été éprouvé et qui a manifesté sa foi de façon très forte. Et dans le verset 2, on voit la bénédiction divine. « Et je te ferai... » Ce n'est pas lui qui est devenu un grand personnage. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il devienne un grand personnage. « Je te ferai devenir une grande nation. » Quelle nation? Les Juifs. « Et je te bénirai. » Et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Alors, qu'est-ce que le passage nous apprend? Que l'homme de Dieu devient un centre de bénédiction pour les autres. On est des hommes et des femmes de Dieu, et si on vit notre vie correctement, selon ce que les Écritures nous enseignent, on devient un centre de bénédiction pour les autres. On devient aussi un centre d'influence. On peut influencer les autres. On devient un centre de transmission de la foi aussi. J'écoutais les témoignages ce matin. J'ai témoigné à ma soeur, j'ai témoigné à mon beau-frère, j'ai téléphoné. On devient un centre de transmission de la foi. Des fois, le Seigneur se sert de nous pour permettre qu'une autre personne vienne au Seigneur. Et aussi, on est un centre d'honneur, parce que la Bible nous dit « tu seras une bénédiction ». La bénédiction suprême, n'est-il pas de connaître Dieu et d'entretenir une relation personnelle avec lui? Dieu bénit tellement Abraham que celui-ci devient l'exemple typique de ce que c'est la bénédiction et ce que c'est aussi être médiateur d'une bénédiction. Et j'aime bien la phrase que je vais vous lire. « L'étendue de la bénédiction d'Abraham ne sera pleinement perceptible qu'au ciel et à la seconde venue de Christ. » Quand on dit bénédiction, autrement dit, il parle du salut que les nations, les individus des nations vont recevoir. Au cours des siècles, on avait juste 2000 ans de passé, là. On est rendu, on a avancé, là. On a beaucoup d'années qui s'est passé depuis ce temps-là. Beaucoup de personnes ont reçu la grâce de Dieu depuis ce temps-là. La bénédiction que ça représente, là, quand tu dis qu'on juste au ciel qu'on va réaliser la bénédiction d'Abraham, qu'on va en saisir toute la richesse, toute la portée, c'est vrai ça, c'est définitivement vrai. Alors dans le verset 3, il fait une promesse, Genèse 12, 3, « Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et vous, dès le début du livre de la Genèse, Genèse 3,15, parle. Mais là, ici, on a une explication un petit peu plus détaillée. Le Seigneur dit que le salut, il va s'étendre au-delà. Toutes les familles de la terre, autrement dit, toute langue, toute race, déjà, c'est dit que le Seigneur a fait la promesse que c'est ça qui va arriver. Puis nous, avec du recul, on a beaucoup plus de facilité à comprendre cette affaire-là. Alors, quand on regarde les promesses divines qui sont faites dans les versets 2 et 3, il y en a 7. La première, quand il lui dit « Tu deviendras une grande nation ». Alors, il faut vraiment se replacer dans la peau d'Abraham si on veut saisir. Quel âge qu'il a, selon le texte, il nous a dit? 75. Donc, il est plus vieux que moi. Il a 5 ans plus vieux que moi. En plus, il n'a pas d'enfant. Puis Dieu lui a dit que, bon, il va... Et il y a un autre problème, c'est que pour avoir des enfants, normalement, ça prend une femme qui est capable d'en avoir. Et lui, il sait déjà que sa femme est stérile. Mais est-ce qu'il se laisse arrêter par ça? Il a sûrement pensé à tout ça. Mais il ne se laisse pas arrêter, il continue. Parce qu'il sait que le Seigneur est capable de... Alors, quand le Seigneur lui dit qu'ils vont devenir une grande nation, on le sait, ils sont devenus une grande nation. Et je pense qu'ici, il parle en même temps de la nation d'Israël et il parle en même temps de ceux qui, en lui, deviendront des croyants. Genèse 13, verset 16, va nous donner un petit peu une évaluation du nombre de personnes qui vont recevoir cette bénédiction-là. Il dit, « Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre. » Quand on s'arrête, c'est beaucoup la poussière de la terre. Parce qu'on se met à compter ça brin par brin, là, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Alors, fort probablement qu'il y a des dizaines de millions, peut-être davantage, de personnes. Et que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Donc, Genèse 13, 16 vient nous dire la quantité de personnes qui recevraient la bénédiction. Donc, la première chose, c'est l'héritage, tu deviendras une grande nation. La deuxième chose, c'est la prospérité, je te bénirai. Quand Dieu bénit, bien entendu, on le sait, Abraham est devenu riche. Mais ça ne veut pas dire que quand Dieu ne nous bénit pas matériellement, qu'on n'est pas béni non plus. Il ne faut pas... Mais dans son cas, lui, il a eu la prospérité. La troisième chose, c'est qu'il a eu la renommée. C'est tout ça que le monde cherche aujourd'hui, la prospérité, la renommée, on veut être connu. Alors, et je rendrai ton nom grand. Et si on ferait une étude approfondie de son personnage, dans l'histoire, on verrait que oui, il a rendu son nom grand, on en parle encore aujourd'hui. Et il lui a dit aussi qu'il deviendrait une source de bénédiction. Tous les croyants, quand ils mènent des vies sanctifiées, deviennent une source de bénédiction pour les autres. Moi, je lis, je me suis souvent servi d'un théologien qui s'appelle John Gill, qui est un Anglais du 18e siècle. Je le lis et je suis encore béni. 200 ans, il est mort. Il est mort, il est enterré. Un autre, Arthur Pink, qui est mort des années 60, nous qui sont en train de lire un livre de lui. Il est mort, mais il continue de nous bénir. Autrement dit, ce que les Écritures nous enseignent, c'est que quand on est des véritables croyants qui vivent leur foi authentiquement, on devient un centre de bénédiction pour les autres, même des fois, des siècles après. Hey, c'est pas des farces, là, quand on parle d'Augustin. Toutes les dénominations cherchent à s'approprier Augustin comme étant faisant partie de leur gang, comme on dit. Savez-vous de quel siècle il était, lui? 4e siècle. Fais-tu longtemps? Puis ses écrits continuent encore de rayonner. Alors, on voit une image là-dedans que quand on mène des vies saintes, on a un grand centre, on devient un grand centre d'influence. Et dans la première partie du verset 12, verset 3, il nous dit que le Seigneur va être, comme bénédiction, une protection divine. Alors, bien entendu, l'expression « et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront » indique une forte déclaration d'intention de la part de Dieu. Dieu sera bienveillant envers ceux envers Abraham et envers ses descendants. Autrement dit, les gens qui vont être bienveillants envers les chrétiens, Dieu va avoir tendance à les bénir, puis ceux qui vont être malveillants envers les chrétiens, Dieu va avoir tendance à faire en sorte que leur vie va devenir misérable. Et quand on lit l'histoire de l'Église, on a vraiment des illustrations très, très, très concrètes de tout cela. Et dans le verset 3, il dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le Seigneur annonçait déjà que le salut s'étendrait sur toutes les langues, tribus et nations de la terre. Genèse chapitre 18, les versets 17 et 19. Et l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand Abraham doit devenir une nation grande et puissante et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, car je l'ai connu afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. » On retourne dans le livre de Romains. Voyez-vous, on en a mis plusieurs livres. On a parlé d'Hébreux, on a parlé de Romains, on a parlé de Galates. Voyez-vous, le nom d'Abraham qui revient continuellement. Dans Romains 4, versets 8 à 14. « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Ce bonheur, donc, n'est-il que pour les circoncis, ou est-il aussi pour les incirconcis? Car nous disons que la foi d'Abraham lui fut imputée à justice. Mais quand lui a-t-elle été imputée? Est-ce lorsqu'il a été circoncis ou lorsqu'il ne l'était pas? Ça n'a point été après la circoncision, mais avant. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait reçue étant incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fût aussi imputée. Et afin d'être aussi le père des circoncis, savoir de ceux qui ne sont point seulement circoncis, mais encore qui suivent les traces de la foi que notre père Abraham a eue avant d'être circoncis. En effet, la promesse d'avoir le monde pour héritage n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. Car ceux qui sont de la loi sont les héritiers. La foi est anéantie, la promesse est abolie. Bien sûr, ce passage-là, il faudrait faire une étude de Romains, parce que Romains, c'est un livre extrêmement important, pas pour rien qui a été placé tout de suite après le livre des Actes, en premier. C'est un livre qu'on a besoin, c'est pas un livre qui se lit et qu'on comprend du premier coup. On a besoin de le réfléchir, on a besoin de le méditer, on a besoin de l'étudier surtout. Parce que c'est un livre qui donne beaucoup de grandes vérités sur le salut. On a besoin de l'étudier. Galates 3, versets 13 et 14. Ça, on est revenu souvent avec 14, 15, 16, Galates 3, dans sa relation avec Abraham. Ça nous dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il a été fait malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit quiconque est pendu au bois. » afin que la bénédiction d'Abraham se répandît sur les gentils par Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Lorsqu'un contrat a été confirmé par un homme, personne ne le casse ou n'y ajoute rien. Et le verset 16 est d'une importance capitale, je l'ai répété plusieurs fois depuis quelques semaines. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à ses postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule « et à ta postérité qui est Christ ». Alors, les promesses que Dieu faisait à Abraham, il les faisait à sa postérité, pas nécessairement ses enfants physiques. La postérité à venir, et les Écritures s'interprètent elles-mêmes ici, parce que dans Galates 3:16, ça nous dit que la postérité, les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa postérité, c'était à Christ qui les faisait. Alors, c'est dans la foi qu'on a en Jésus-Christ et dans l'exemple d'Abraham qu'on voit ces choses-là. Et la septième chose, c'est vraiment la possession du pays. Dans le verset 7, il dit « Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alors, le pays d'Israël, bien sûr, est un don de Dieu à son peuple. Il est intéressant de rencontrer de vers devant les versets 4 et 5. On a vu que Dieu demande des choses, mais que son serviteur obéit de façon immédiate. Alors, dans le verset 4, il dit « Et Abraham s'en alla, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot alla avec lui. » Et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. L'appel de Dieu sur la vie d'un de ses enfants est un acte de sa souveraineté et implique une séparation du mal, une séparation du monde et aussi une séparation du péché. On le sait, quand on devient chrétien, on ne peut pas continuer à faire ce que le monde fait. On ne peut pas non plus continuer à suivre les impulsions de notre nature pécheresse. Et on se doit de combattre le péché, combattre aussi Satan. Romains 9, versets 15 et 16, parle de souveraineté de Dieu, extrêmement important à saisir. « Car il a été dit à Moïse, je ferai miséricorde, à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » C'est Dieu qui prend la décision. Luc 14, versets 26 et 27. Verset très important alors pour illustrer le fait. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on se doit d'haïr notre père, notre mère, nos familles. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que on se doit de préférer Dieu à notre famille. Et ça a l'air facile à dire, à accepter dans notre esprit comme ça, là. Mais j'ai vu des cas, moi, que des fois, dans ma vie chrétienne, où que des fois la famille a passé mal au Seigneur. Pourtant, si vous lisez Luc 14, versets 26 et 27, c'est le Seigneur lui-même qui parle. C'est pas... Il dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie. » C'est énorme ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il ne peut être mon disciple. Autrement dit, l'amour que vous avez pour votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, toute votre parenté, si on compare ça à l'amour que vous devez avoir envers le Seigneur, ça a l'air de la haine. Comprenez-vous? Parce que souvent, j'ai vu des gens qui avaient de la difficulté. Je me souviens d'une nouvelle croyante qui est à Rouyn-Noranda. Elle avait lu ce passage-là. Elle était toute troublée. Elle m'appelle, elle m'envoie un email. « Je comprends pas ça. Tu me demanderas pas d'haïr mon père, ma mère. » Mais, à quelque part, c'était un peu normal, les nouveaux croyants. Mais le texte est exprimé d'une façon qui veut dire l'idée suivante. Si vous comparez l'amour que vous avez envers vos parents, peu importe de quel degré, si vous comparez ça à celle que vous devez avoir avec Dieu, ça a l'air de la haine. Voyez-vous, c'est énorme ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, et le verset 27 aussi, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » C'est une obéissance aussi qui était très audacieuse, comme on a dit tantôt. « Prêtez foi aux promesses divines. » Alors que tu as 75 ans, que tu n'as pas d'enfant, puis ta femme est stérile, puis dit que tu vas devenir une grande nation, je pense qu'on se sera posé des questions nous autres aussi. Hein? Mais c'est une obéissance qui est inspirante parce que, voyez-vous, même si le Seigneur l'a dit à Abraham, voyez l'influence que son obéissance a eue aux personnes qui l'entouraient. Et Abraham prit Sarah, sa femme, Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tout le bien qu'ils avaient gagné, les personnes qu'ils avaient acquises à Charan. Autrement dit, à cette époque-là, tu avais des esclaves. Et non seulement il décide, oui, je t'obéis, Seigneur, mais il emmène sa femme avec lui, le frère de son neveu, et il emmène tout le monde qui était à son service à l'époque, avec toutes ses meubles, Autrement dit, ils déménagent, ils changent de pays avec tout ça. Ça prenait une foi extrêmement forte. Changer de contrée, emmener tous ses biens. Voilà, vous prenez un homme déterminé. Versets 6 à 9, on va voir que quand on obéit à Dieu, parfois ce qu'on rencontre comme difficulté quand on arrive dans l'endroit où il veut nous emmener, que des fois, les quêtelles nous poignent, comme on dit en québécois, on a peur. Parce que ça dit, « Et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Or, les Cananéens étaient dans le pays. » Qu'est-ce qu'on sait des Cananéens? On le sait un petit peu plus tard, parce que dans les Écritures, on nous dit que c'était des descendants de Cam. Et dans Deutéronome 20, versets 17 et 18, ça disait en parlant des Cananéens, « Tu ne manqueras point de les vouer à l'interdit. » Vouer quelqu'un à l'interdit, c'était... Oui, comme on dit en québécois. Les vouer à l'interdit, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérisiens, les Héviens, les Jébusiens, comme l'Éternel te l'a commandé. Vous, l'Éternel te dit de t'en aller dans un pays, puis tu arrives là, puis tout ce que tu vois, c'est du monde que sont... vraiment, ils vivent. Les Cananéens avaient été réputés pour mener des vies dissolues. Alors, tu te dis, ouais, tu me fais sortir d'un pays idolâtre, puis tu m'emmènes dans un pays où ce que le monde vit de façon dissolue. Tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends plus rien. Alors, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils ont pratiquées envers leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Alors, bien entendu, les noms dans les Écritures, quand on parle de Sichem, si on va chercher la signification du mot en hébreu, qui veut dire épaule, et le chêne de Moré, qui veut dire instruction, l'idée suivante semble indiquer dans le texte que ça suggère qu'Abraham a retrouvé la force. On parle souvent de ce qu'on nous met sur les épaules. On parle de Sichem. On parle de Moré. Souvent, on lit ça, et en n'ayant pas les définitions, il y a certaines idées qui sont dans le texte. Je pense qu'on manque un peu de bateau, des fois. Alors, la vue de toute cette idolâtrie-là, des méchancetés des Cananéens, ça l'a fort probablement provoqué dans l'esprit d'Abraham des doutes et des questionnements. Je me demande de sortir d'un pays, je m'emmène dans un pays, c'est la même affaire, ou à peu près. Mais quand on regarde les versets 7 et 8, l'Éternel apparut à Abraham. Voyez-vous, l'Éternel apparaît toujours au bon moment. Lorsque l'homme est découragé, lorsque l'homme voit des difficultés qu'il n'avait pas vues, il se dit « qu'est-ce que je fais ici? » Et l'Éternel apparut. Voyez-vous, dans le premier verset, c'est à quoi? Dit, l'Éternel dit, l'Éternel a parlé. Ici, l'Éternel apparaît, c'est encore davantage. L'Éternel apparaît à Abraham et lui dit « je donnerai ce pays à ta postérité. » Autrement dit, ne te fie pas sur tes premières impressions parce qu'on va faire le ménage éventuellement. Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Le fait de bâtir un autel, ça signifiait quoi pour Abraham? Ça signifiait qu'il savait que Dieu était pour accomplir ses promesses malgré les apparences. Et il passa de là vers la montagne à l'Orient de Bethel. J'avais tout entendu parler de Bethel. Il y a une école à Sherbrooke, biblique, qui parle de Bethel. Ça veut dire maison de Dieu. Et Haï. Il s'est arrêté dans deux endroits, entre Bethel et Haï. Haï, ça veut dire... ça veut dire, je vais vous le trouver là, ruine. Entre la maison de Dieu et la ruine. Ça vous fait-tu penser à un combat qui entre le chrétien, entre... vouloir toujours aller vers les choses de Dieu et la ruine de notre vieille nature. Il était quelque part entre les deux. Il commençait à sentir un petit peu la force du combat. Alors ici, Abraham commence à expérimenter le réconfort de la présence divine par le fait que Dieu lui apparut. Alors la réponse d'Abraham est immédiate. Il manifeste de la gratitude. Il vit un moment de découragement et Dieu lui apparaît pour l'encourager. Et là, pour répondre, il lui bâtit un autel. C'est vraiment une référence de foi. Je sais que tu vas être capable d'accomplir ce que tu nous as promis, malgré ce que je vois. Et quand on regarde le verset 9, « Puis Abraham partit, marchant de campement en campement vers le midi. » Alors, bien sûr qu'on peut penser qu'Abraham s'attendait à trouver du repos en arrivant à Canaan. Mais il devra exercer sa foi plus que jamais pour plusieurs raisons. Il est âgé, sans enfant, une épouse stérile, et tout semble indiquer que l'occupation du pays va être problématique. Hébreux 11, versets 8 à 19. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Par la foi aussi, Sarah reçut la vertu de concevoir, et malgré son âge, elle enfanta, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, et qui était déjà affaibli, il est né une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable du bord de la mer qui ne se peut compter. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin, crus et embrassés, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé, et que celui-ci, qui avait reçu les promesses, offrit son unique, dont il avait été dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. Ayant pensé à lui-même que Dieu pouvait même le ressusciter des morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est assez extraordinaire, ça. Il est en train de raconter dans Hébreux 11, qui est le chapitre des héros de la foi, comment Abraham a exercé sa foi d'une multitude de façons. Mais on voit qu'il se dirige vers le Midi. Le Midi, c'est où? Le sud. Alors, dans le pays où il est, il se dirige vers le sud. Puis le sud, c'est où? L'Égypte. Alors, on voit peut-être une tendance que l'être humain a, malgré des fois les bonnes intentions que Dieu met dans notre cœur, de s'en aller dans la mauvaise direction. Alors, trois applications que je fais à partir du texte d'aujourd'hui. Le Seigneur nous instruit de plusieurs façons par ces versets-là. Première façon, apprenons sur la grâce divine. Dieu appelle ses élus souverainement. Puis, il leur montre la direction, les guide infailliblement, les protège et les bénit durant leur pèlerinage. Deuxième application, prenons Abraham comme modèle d'obéissance. Quels sont les qualificatifs qu'on pourrait donner à son obéissance? Immédiate, irréversible, pas le goût de retourner en arrière, contagieuse, il emmène toute sa famille, tous ses esclaves, et persévérante, autrement dit, même s'il voit des difficultés en cours de route, il continue. N'est-ce pas ce qu'on vit nous autres aussi? Et la troisième, distinguons la main de Dieu dans nos circonstances providentielles. C'est quoi les circonstances providentielles? C'est tout ce qui nous arrive au cours d'une journée, tout ce qui nous arrive au cours d'une vie. Reconnaissons que la main de Dieu est dans nos circonstances providentielles. Même nos errances, on va voir plus tard qu'il a fait des mensonges en disant que sa femme, c'était sa sœur. C'est une errance. Mais Dieu se sert de nos erreurs, de nos errances, de nos misères, et il s'en sert dans le plan, dans son plan divin. Alors, nos épreuves, je chantais tantôt au début, je me demandais, quand on chante ça, est-ce qu'on le chante avec tout notre cœur? Je te remercie, Seigneur, pour les épreuves que tu m'envoies, car elles me nettoient. On a chanté ça ce matin. On le chante, mais est-ce que notre cœur est là, disant au Seigneur, je sais que ça fait mal ce que tu m'envoies, je sais que c'est difficile, mais je sais que ça fait partie de ton plan, je sais qu'il y a plein d'intelligence là-dedans, plein de sagesse à l'intérieur de tout ça. Alors, Dieu, nos épreuves sont permises par notre grand Dieu, et aussi nos consolations sont contrôlées, comme on a pu voir dans le texte, parce qu'au moment où Abraham commençait à avoir un peu des difficultés. Dieu lui apparaît, lui encourage et vient encore une fois lui dire, oui, ce pays-là, je te le donne et tu vas devenir grand comme je te l'ai dit et ça va s'accomplir ce que je t'ai promis. Alors que notre glorieux Seigneur soit béni, adoré et exalté pour sa grâce et sa direction dans nos vies. Amen.